On vous en avait parlé sur Radio Pont. Nous y sommes allés. Nous avons pris quelques enregistrements. Les voici.
Radio Pont était au Festival littéraire et artistique de Teilhard pour la 11e session qui s'est déroulée du 23 au 25 mars 2018. Et maintenant, pour vous faire découvrir les auteurs, voici l'interview d'un des auteurs que j'ai pu rencontrer. Alors, on est avec Jean-François Clairvoy. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Alors, vous êtes membre du...
Je suis membre du corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Nous sommes actuellement 10 astronautes actifs, dont 3 Français, Léopold Dehartz, Thomas Pesquet et moi-même. Et l'Agence spatiale européenne est une organisation internationale qui n'est pas l'Agence spatiale de l'Union européenne. C'est une autre organisation, mais qui a des relations, bien sûr, avec l'Union européenne. Donc nous sommes 22 pays, dont 10 participent au programme de vols habités. Donc j'ai réalisé 3 vols dans l'espace à bord de la navette spatiale américaine. Le premier pour étudier l'atmosphère en 1994 à bord d'Atlantis. Le deuxième aussi à bord d'Atlantis pour ravitailler la station spatiale russe Mir. Et le troisième à bord de Discovery pour réparer le télescope spatial Hubble. Je suis ici au Festival littéraire de Teilhard pour dédicacer un livre sous forme d'almanach qui raconte l'histoire des vols habités. Le premier vol habité, c'est celui de Yuri Gagarin il y a 57 ans. En avril 1961, et dans ce livre, sous forme d'anecdotes, plus de la moitié des pages sont constituées de photos, eh bien, on raconte cette histoire des hommes qui sont allés dans l'espace, des hommes et des femmes, bien sûr, et avec quelques chapitres sur l'avenir, où nous serons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, voire même dans 200 ans ou plus, avec des projets qui étaient chers à Arthur Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui avait conçu l'idée d'un ascenseur spatial. Donc une tour qui fait 36 000 km de hauteur pour monter jusqu'à l'altitude des orbites géostationnaires. C'est un livre qui est très pédagogique. Il s'apprécie très bien par les adultes, comme les enfants à 10 ans, ils peuvent lire et ça peut les aider à être fascinés par ce monde de l'aventure spatiale.
Nous, ça fait longtemps que vous êtes dans ce domaine-là.
Je suis dans le domaine spatial depuis la fin de mes études. J'ai terminé mes études en 1983. Après l'école polytechnique, j'ai fait ce qu'on appelle communément super-héros, qui s'appelle aujourd'hui ISAE, pour Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. C'est une école qui forme des ingénieurs en aéronautique et en spatial, où on apprend à concevoir des avions, des fusées, des satellites. Et j'ai commencé à travailler, j'avais exactement 24 ans. J'ai travaillé sur une sonde interplanétaire franco-russe qui a étudié la planète Vénus et la comète de Halley. J'ai travaillé sur des satellites d'observation de la Terre, sur la navette spatiale Hermès, qui n'a jamais vu le jour malheureusement. Et j'ai été sélectionné très jeune, à 26 ans et demi, dans le deuxième groupe d'astronautes français, en 85. Donc je pense qu'en étant encore actif aujourd'hui en 2018, ça fait donc 33 ans, je suis l'Européen qui sera resté actif astronaute le plus longtemps dans sa carrière. Avec peu de chances de revoler dans l'espace, même si en théorie c'est possible, parce que les vols maintenant spatiaux sont des vols très rares. Il y a un vol pour un Français tous les 5 à 10 ans, alors qu'à l'époque où j'ai fait mes vols, entre 1992 et 2002, sur une période de 10 ans, on a eu quand même 13 vols de Français dans l'espace. Et après 2002, il a fallu attendre 6 ans pour qu'il y ait à nouveau un Français, Léopold Dehartz, en 2008, il y a 10 ans. Et puis après Léopold, il a fallu attendre 10 ans pour avoir à nouveau un Français dans l'espace avec Thomas Pesquet.
Ça doit être formidable ce domaine.
Oui, le vol spatial est très sensationnel, émotionnel. Ça nous fait réfléchir aussi sur notre condition d'humain. On se sent poussé avec une grande puissance vers l'espace ou très rapidement, même en décollant en plein jour, comme mon premier vol qui était à midi, au bout de 2 minutes, en perçant l'atmosphère verticalement. En accélérant, on est très rapidement au-dessus de l'atmosphère et le ciel est noir d'encre, on ne voit rien, on ne voit pas les étoiles. Notre vision n'est pas adaptée à l'obscurité pour les voir. Après, on atteint une vitesse horizontale de 28 000 km par heure, en à peine 8 minutes et demie. C'est-à-dire entre l'allumage des moteurs au sol et l'extinction définitive des moteurs en vol, c'est 8 minutes et demie. Après, nous sommes en orbite pour toujours. On tombe, attiré par la Terre, mais sans jamais la rencontrer parce que notre vitesse horizontale est tellement grande qu'on manque la Terre en permanence. C'est le principe de la satellisation, de lancer un objet suffisamment rapidement, horizontalement, pour que sa trajectoire naturelle suit la même courbure que la Terre. Et donc, on est en apesanteur, parce qu'on tombe en même temps que notre vaisseau, donc on n'est ni attiré vers le haut ni vers le bas, et c'est très ludique, c'est très rigolo. Moi, je dormais au plafond, face au sol. Mais ce qui marque le plus à vie les astronautes, c'est effectivement la planète bleue, donc c'est le thème de ce festival littéraire ici à Ténac. Quand on voit la Terre depuis l'espace, l'horizon porte à environ, est à 2500 km, donc le regard couvre 2500 km à la ronde. On peut voir la France d'un coup d'œil, globalement. Le contenu change très vite, puisqu'on fait le tour de la Terre à 28 000 km par heure en 1h30, et donc il y a 16 fois 1h30 dans 24 heures, donc on fait 16 tours du monde par jour. Le contenu de ce change-vue change très vite. En plus, c'est très beau parce que c'est contrasté, c'est coloré, c'est vivant. Et on se rend compte de la fragilité du vivant sur Terre parce que lorsqu'on regarde à l'horizon l'épaisseur de l'atmosphère vue sur sa tranche, on s'aperçoit qu'à l'échelle de la planète Terre, l'atmosphère est une couche de gaz extrêmement mince. À l'échelle d'un globe terrestre, comme on met parfois sur notre bureau, l'atmosphère, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. Donc, on prend conscience du besoin de protéger l'atmosphère. Et donc l'océan qui est très important dans le fonctionnement de l'atmosphère et de protéger le vivant en général, donc les plantes, les animaux, les humains. La Terre, elle nous survivra. La Terre en soi, en tant qu'être géologique et climatique, elle n'est pas fragile. C'est notre écosystème du vivant actuel sur Terre qui est fragile. Ce serait dommage que l'homme soit la cause lui-même de la sixième grande extinction. Il y a eu déjà des extinctions majeures du vivant sur Terre, mais c'était pour des causes naturelles, cosmiques, climatiques, tectoniques. Mais si on ne fait pas attention, on peut accélérer notre perte. Mais je suis optimiste. L'homme est assez intelligent pour prendre les bonnes décisions à temps.
Merci.
Voilà, merci.